Chapitre 8. Le remboursement à la rouette avait provoqué chez Roger un sombre désespoir. C'était la ruine. Les amis auxquels il s'adressa et qui, du reste, connaissaient depuis longtemps sa situation gênée, ne lui offrirent que des secours dérisoires. En vain frappa-t-il à toutes les portes. Il trouva partout défiance et froideur. Il se vit perdu. Seul Lucien l'aimait assez pour lui sacrifier sa fortune, s'il avait été riche, mais il était pauvre et ne pouvait lui être d'aucun secours. Et même Roger ne le mit pas dans la confidence de ses angoisses, afin que Julia ne les connût point par délicatesse, et parce que peut-être elle eût commis quelque imprudence en voulant lui rendre les 100 000 francs avec lesquels jadis il l'avait sauvé du scandale. Et pourtant, ces 100 000 francs, c'eût été le salut. Comme il y pensait, malgré lui. Il y pensait, mais sans aucun espoir, comme on pense à un mort. Eût-il prié Julia de lui rendre cette somme qu'elle ne l'aurait pu? Où l'eût-elle cherchée et trouvée? Le soir du remboursement, il avait quitté son bureau vers 3 heures et couru dans Paris, sans penser, au hasard des rues, cherchant à se fatiguer le corps pour échapper aux souvenirs. À 10 heures, il se trouva, ramené par l'instinct, devant la gare Saint-Lazare. Il avait oublié de dîner, mais il n'avait pas faim. Seulement une soif brûlante le dévorait. Il but, debout, à la terrasse d'une brasserie. Il prit le train et, une demi-heure après, descendit Ville d'Avray. Il n'avait pas confié ses embarras d'argent à sa femme parce qu'il avait espéré jusqu'au bout en sortir. Maintenant qu'il allait être obligé de lui avouer la ruine de cette vieille maison que son père lui avait léguée encore prospère, maintenant qu'il fallait préparer Henriette à la gêne, à la pauvreté, il avait peur. Il n'osa rentrer chez lui, voulant retarder cet aveu pénible et craignant qu'Henriette ne devinât la vérité à son air égaré, à son trouble, car il n'était plus maître de lui. Il s'en alla errer dans le bois, derrière sa maison, au hasard, sans voir, sans regarder, ainsi qu'il avait fait à Paris. Quelquefois, il s'arrêtait. Des paroles incohérentes lui échappaient. « Ma pauvre femme, ma pauvre Suzanne !» Puis il reprenait sa course d'insensé, se jetant d'une allée avec des sentiers qui se perdaient dans des fourrés d'épines où il tombait, se déchirant les mains, souillant ses vêtements sans prendre garde, poursuivi par une pensée unique. Ruiné, déshonoré, ma vie est finie. Et toujours le souvenir de sa femme, le souvenir de sa fille. À la fin, n'en pouvant plus, il s'assit sur un banc et rêva, frissonnant d'une grosse fièvre. Il était revenu en bordure du bois, tout près de l'étang. Son regard obstinément restait fixé sur une jolie maison de l'autre côté du lac, dont on voyait le jardin descendre en pente douce, coupé de pelouses et de massifs jusqu'à la rive. C'est là que reposait sa petite Suzanne, là que, sans doute, malgré l'heure, l'attendait sa femme. Et pendant longtemps, il avait abrité sa gaieté, ses amours et le bonheur de celle qu'il aimait. Est-ce qu'il allait perdre tout cela? Lentement, il rentra. Il longea l'étang, passa le pont, s'arrêta une dernière fois, penché au-dessus de l'eau et des herbes nageantes, ayant envie d'en finir tout de suite, en se noyant, parce qu'il se sentait infiniment là devant sa vie à recommencer. Mais son regard se reporta vers la villa. Il voulait bien mourir, mais il aurait tant voulu revoir encore sa femme et sa fille. Il revint, ouvrit la porte et monta. Tout était silencieux dans la maison. « Sans doute elle dorme, » murmura-t-il. Il écouta à la chambre d'Henriette, rien. Alors il passa dans sa chambre et tomba accablé devant son bureau, la tête dans les mains. C'est ainsi, dans cette attitude, que le vit Henriette et que le vit Suzanne aussi. Poursuivi par la même idée de suicide, il avait tiré un revolver d'un tiroir, l'avait armé, puis, écartant ses vêtements, avait appliqué le canon contre son cœur. Mais toujours la pensée de Suzanne et d'Henriette se dressait entre lui et la mort. Il repoussa le revolver. Il ne se coucha pas, ne dormit pas, resta toute la nuit à rêver. Le lendemain, quand il embrassa sa femme et sa fille, il sentit que sa résolution s'amollissait. Se tuer, n'était-ce pas les condamner à la misère? Il fut presque gai, il n'avait pas encore le courage d'avouer sa ruine à Henriette. « Demain, se disait-il, laissons-lui un jour de bonheur. » Mais il avait besoin d'entendre Henriette lui répéter qu'elle l'aimait, ainsi qu'il le lui avait dit, quoi qu'il dût arriver, qu'elle l'aimerait toujours. Quand vers 9 heures il repartit pour Paris, le meurtre de l'Arouette n'était pas découvert. Roger passa boulevard Malesherbes. Il y avait là, dans un coquet appartement, quelques œuvres d'art d'un assez grand prix, et il songeait à s'en débarrasser, voulant faire argent de tout. Il y était depuis une demi-heure à peine que le concierge montait et lui remettait un petit paquet sous enveloppe et une lettre, le tout à son adresse, qu'une dame voilée, mais paraissant jeune et jolie, disait le concierge, venait d'apporter à l'instant même. Un coup d'œil suffit à Roger pour reconnaître l'écriture. Elle le poursuivrait donc partout, toujours. Il courut après le concierge pour les lui rendre, mais Julia était partie. Alors il l'ouvrit d'un geste brusque, la lettre d'abord. « Quelqu'un qui connaît votre détresse et que vous avez secouru autrefois veut vous secourir à son tour en vous remboursant. Vous trouverez sous l'autre pli les 100 000 francs qu'on vous doit. Qu'on se venge. Adieu. » Quand il voulut briser le cachet de l'autre enveloppe, sa main tremblait tellement qu'il fut obligé de s'arrêter. Son visage et son front furent soudain envahis par une rougeur brûlante. Puis d'un coup de ciseau, il creva l'enveloppe. C'était vrai. Il ne rêvait pas. La lettre n'avait pas menti. Des liasses de billets de banque s'éparpillèrent sur le tapis. Ainsi, elle se vengeait, mais noblement. Roger en fut accablé, malgré la joie de cette délivrance et la certitude du salut. Pour Julia, c'était presque une façon de racheter sa faute que de sauver son amant. Elle se sauvait elle-même par l'amour, tandis que Roger se disait que non seulement il n'aimait pas, mais qu'il n'avait jamais aimé cette femme. Et dans son esprit inquiet revenait sans cesse la même idée. Comment pourrais-je, par un dévouement, me relever à mes propres yeux? Il déchira la lettre de Julia, la brûla, pour qu'il n'en restât point de traces, puis rangea dans son portefeuille les 100 000 francs de billets qu'il venait de recevoir si miraculeusement, et courut les porter rue Saint-Maur. Jean Guerrier les avait encaissés sans même les recompter. Mais ce n'était pas tout. Pour faire honneur aux échéances du lendemain, il manquait à la roque 50 000 francs. Bien qu'il ne fût pas joueur, il voulut tâter du jeu. À la table de baccarat, un joueur s'acharna contre lui. C'était un membre du cercle récemment introduit. Roger ne le connaissait pas. On le lui nomma Luversan. Ce nom ne lui rappelait rien, et pourtant, quand il regarda le joueur, il eut la singulière sensation d'un homme déjà rencontré. Il chercha un instant dans sa mémoire, ne le trouva pas et ne s'en occupa plus. Seulement pendant la partie, un des joueurs, nommé par Roger au commissaire de police aux délégations, le baron de C, qui lui avait servi de second parrain, entrant dans la salle et apercevant Luversan de dos, alla lui frapper falimièrement sur l'épaule en disant « Oh, vous ici, mon cher Roger !» Mais Luversan, s'étant retourné, M. de C avait dit « Oh, mille pardons, monsieur, je vous prenais pour M. Laroque, mon filleul de ce soir. » « Vous êtes tout excusé, monsieur, » avait dit Luversan en souriant avec bonhomie. Les deux hommes s'étaient salués courtoisement, et la partie avait continué sans que Roger, actionné au jeu, eût apporté grande attention à l'incident. En sortant du cercle où il avait éprouvé de si cruelles émotions, il courut à la gare, le dernier train partait. Vers 1 heure du matin, il rentrait à la villa, il était léger et presque gai. Il souffrait tellement depuis ces derniers jours qu'il avait besoin d'expansion et d'un peu de joie bruyante. Ce fut ce matin-là qu'il passa à la mairie de Ville-d'Avray pour y raconter au commissaire de police de Versailles ce qu'il savait sur Arouette. Ce fut ce matin-là encore que, grâce au banquier Terrenoir, il put verser à son caissier les 50 000 francs qui faisaient le complément de l'échéance. Ce fut ce matin-là, enfin, que M. Liénard se présenta rue Saint-Maur et que Roger fut arrêté et envoyé à Versailles à la disposition du juge d'instruction chargé de l'enquête. Chapitre 9. Roger fut écroué à la prison de Versailles et ne fut pas interrogé le jour même, mais seulement le lendemain. M. de Lignerolles, le juge d'instruction, très au courant par les préliminaires d'enquête de M. Lacroix, attendant un supplément de renseignements afin d'être prêt à accabler leur Roger. Ce fut donc le lendemain que Roger comparut devant le juge. Il était pâle et défait, il n'avait pas dormi et avait passé cette première et cruelle nuit à rêver au moyen de prouver son innocence sans trahir Julia, sans trahir la faute commise. Avouer qu'il avait prêté 100 000 francs à Julia en secret de son mari, dire que Julia avait été sa maîtresse, c'était la déshonorer. C'était déshonorer ce pauvre être infirme et malade, incapable désormais de se défendre, Lucien, son ami. Et cela, il ne le pouvait pas, même au prix de sa vie. Il avait cherché comment, en se dévouant pour Noirville, il effacerait en quelque sorte la faute commise. Longtemps, ce dévouement s'était dérobé à lui. Il s'offrait maintenant complet, il s'offrait comme un châtiment terrible, une suprême expiation. Et il était prêt à l'accepter, bien que cela lui coûtait cher, l'honneur, la fortune, la liberté, peut-être la vie. Une seule espérance lui restait, presque une joie. Jamais, se disait-il dans la cellule où il était tenu au secret, jamais Henriette, jamais Suzanne ne me croiront coupable. On me permettra bien de les voir une fois, et je leur dirai « je suis innocent ». Cela suffira pour qu'elles me croient, malgré toutes les apparences. Et je ne serai pas complètement abandonné, puisque dans un coin du monde, il me restera deux cœurs fidèles, ma fille et ma femme. Vers le matin pourtant, lorsque le soleil se leva, il eut un accès de désespoir et crispa ses deux mains dans ses cheveux. « Moi, en prison, moi, pour un meurtre et un vol, est-ce possible? Mais je veux me défendre. Ne le pourrais-je donc sans trahir Julia? Je le veux, il le faut, je me défendrai. » Lorsqu'il entra, escorté par deux gendarmes dans le cabinet de M. de Lignerolles, il s'approcha vivement du juge et avec élan. « Monsieur, lui dit-il, je vous jure que je suis innocent. C'est odieux de déshonorer ainsi un honnête homme. » M. de Lignerolles ne répondit pas. Il avait d'un coup d'œil dévisagé la roque et il avait été surpris. Sur cette figure énergique, tout indiquait une souffrance aiguë, une fatigue énorme, mais il n'y découvrait rien du criminel vulgaire. Les yeux, voilés de larmes, étaient droits et francs. Il lui indiqua un siège, mais Roger n'y prit pas garde et demeura debout, les doigts entrelacés, regardant ardemment M. de Lignerolles, parce que là était le salut, s'il pouvait faire entrer la conviction dans l'âme de cet homme. « Vous êtes inculpé d'assassinat suivi de vol, » dit-il. Alors commença un interrogatoire pénible, roulant d'abord sur de menus faits. Comment avait-il passé la soirée du crime? Il voulut l'expliquer, mais dès les premiers mots, M. de Lignerolles souriait d'un sourire sceptique. En vain, Roger essaya-t-il de dire qu'il avait erré dans Paris, en proie au plus sombre désespoir, poursuivi par l'idée de sa faillite prochaine. En vain, dit-il que de 11 heures à minuit, il avait erré par les bois de Ville-d'Avray, n'osant rentrer chez lui, dans la crainte d'être deviné par sa femme et d'avoir à lui avouer sa ruine. « Mais prouvez-moi, dit le juge, que vous vous êtes promené ainsi à l'aventure. Quelqu'un peut-il témoigner en votre faveur ? Je n'ai rencontré personne. » Lorsque M. de Lignerolles demanda d'où provenait le remboursement, la rouette, Roger répondit « Bon, vous pouvez croire ce que vous voudrez. J'admets pour un instant l'existence du débiteur, fit M. de Lignerolles. Vous le connaissez. Vous expliquez-vous du moins comment il se fait que les billets de la rouette soient venus en sa possession ? L'un de vous est le meurtrier, et si vous ne voulez point passer pour son complice, je vous engage à vous dire son nom. » L'insinuation du juge avait frappé Roger comme un coup de fouet qui eût cinglé les membres. Était-ce donc son ancienne maîtresse qui avait assassiné la rouette ? Mais cette idée était si absurde qu'il se contenta de hausser les épaules. Et pourtant, elle avait dit un jour, lors de leur rupture, « Si jamais il vous arrive malheur, souvenez-vous que peut-être je n'y serai pas étrangère. » Menace de femme à laquelle il n'avait pas pris garde. « Mon débiteur ne peut être soupçonné pas plus que moi, dit Roger. Et il importe peu à votre enquête que son nom vous soit connu. J'ai déjà refusé de répondre à ce propos. Je vous serai obligé de m'épargner de nouveau la peine de refuser encore. Vous vous perdez, je vous en avertis. Mais c'est une affaire entre moi et ma conscience. » Monsieur de Lignerolles sembla se recueillir un instant, puis « Il est une autre preuve, dit-il, dont nous ne vous avons point parlé encore, irrécusable, terrible et douloureuse entre toutes. Puis-je la connaître tout de suite ? Je la réfuterai celle-là peut-être plus facilement que les autres. Vous avez été vu au moment où vous entriez chez la rouette, un instant avant l'assassinat. Moi, moi, dit Roger effaré. Vous avez été vu au moment où vous commettiez le crime. Moi, on m'a vu. Oh, qui cela ? Deux témoins, une femme, une petite fille. Une femme, une petite fille. Oh, oh, dit Roger en riant et comme soulagé. Ah, voilà qui me tranquillise et qui va vous prouver enfin que je suis innocent. Cette femme, cette petite fille ont vu l'assassin. Bah, faites-les donc venir devant moi et qu'elles me regardent. Elles vous diront si elles me reconnaissent. Nous vous confronterons tout à l'heure. Et pourquoi pas à l'instant même. Lorsque ces deux témoins m'auront vu, leur conviction sera fermée. Le juge lui indiqua une salle d'attente communiquant avec son cabinet. « Dans quelques minutes, vous serez satisfait, » dit-il. « Chacune de ces minutes va me paraître bien longue, monsieur, » dit Laroque en souriant. « Enfin, j'entrevois l'espérance. » Et il sortit, accompagné par deux gendarmes. Dans un coin du cabinet du juge, sur un bureau plat, un greffier, vieux bonhomme ridé à la barbe entièrement blanche, avait écrit les réponses de Laroque. M. de Lignerolles parcourut le procès-verbal afin de s'assurer que rien n'avait été oublié. Après quoi, il dit « Faites entrer Mme Laroque seule. » Le greffier sortit et un instant après introduisit respectueusement Henriette. Celle-ci avait reçu la veille au soir une lettre du juge d'instruction l'amendant au parquet avec sa fille. Connaissant l'arrestation de son mari, elle s'attendait à cette lettre. Elle vint donc, tout à la fois tremblante et résolue. En partant, Suzanne avait demandé « Où me mènes-tu, mère ?»« À Versailles, ma chérie, à Versailles, où l'on va te faire souffrir encore. » Lorsque le greffier la fit entrer chez monsieur de Lignerolles, elle semblait n'avoir plus une goutte de sang tant elle était pâle. Monsieur de Lignerolles lui avança une chaise. Elle s'y affaissa. La mission que j'ai à remplir auprès de vous est très pénible, madame, dit le juge. Vous vous doutez assurément du motif qui m'oblige à vous entendre. Je ne veux pas toutefois recommencer l'interrogatoire cruel que vous avez déjà subi et dont monsieur Lacroix m'a mis le détail sous les yeux. Vous pouvez d'autant mieux m'épargner cet interrogatoire, monsieur, que je n'ai qu'à répéter mot pour mot ce que j'ai dit à monsieur Lacroix. Non, madame, pour vous, pour votre mari, j'espère que vos réponses seront plus précises, car votre refus de vous expliquer sur le meurtre de la Rouette et la condamnation de la Roque. Dites-moi que vous n'avez pas reconnu votre mari dans le meurtrier, c'est bien. Et alors, donnez-moi le signalement de l'assassin. Mais ne soutenez pas que vous n'avez pas été témoin du crime. Mais cela est vrai, pourtant, dit la courageuse femme dans son héroïque entêtement. Nous allons vous mettre en présence de votre femme de chambre. Victoire fut introduite. Un instant embarrassée devant son ancienne maîtresse, car ce n'était point une méchante créature, elle reprit cependant contenance. « Répétez devant madame Larocque, dit le juge, la déposition que vous avez faite à monsieur Lacroix, et une seconde fois à nous-mêmes. » Victoire s'exécuta. Madame Larocque écoutait et essayait d'affecter un air surpris, mais sa gorge était serrée. Il fallut bien qu'elle répondît quand Victoire eut parlé. « Cette fille, dit-elle, a l'imagination troublée par la lecture des romans. Son récit est une suite d'inventions et d'extravagances. Ni ma fille ni moi, nous n'avons tenu les propos qu'elle rapporte. Si du balcon nous avions appelé Roger, il nous eût répondu, et se voyant découvert, il ne serait pas entré chez notre voisin. Tout cela est donc invraisemblable. Tout cela est malheureusement vrai, madame, dit Victoire. Mais que vous ai-je donc fait, ma fille, pour me causer autant de chagrin? Et que vous avez fait, mon mari, pour que vous portiez sur lui une accusation aussi grave? Ben, je n'ai point de reproche à vous adresser, madame, et si j'avais pu garder en moi ce que j'ai dit, je me serais tue. Elle se retira. « Vous le voyez, madame, dit le juge, la déposition de cette fille est très nette et ne varie pas. Vous avez été témoin involontaire du crime. Qu'avez-vous vu ?
Je n'ai rien vu, rien entendu.
N'oubliez pas que votre silence est la perte de votre mari.
Mais toute la vie de mon mari plaide pour lui et crie haut sa probité. »
Le greffier fit sortir Henriette et ramena Suzanne. Elle regarda le juge avec terreur. Monsieur de Lignerolles l'embrassa et la contempla longuement avant de parler. « Et vous, mon enfant, serez-vous plus raisonnable aujourd'hui que vous ne l'avez été hier? Quelqu'un vous a-t-il fait comprendre que vous seriez la cause d'un grand malheur pour votre père si vous refusiez de nous dire ce que vous avez vu ?» Il y a 4 jours, lorsque vous étiez au balcon près de votre mère.
J'ai rien vu, monsieur.
Ne mentez pas, mon enfant. Le mensonge est vilain. Est-ce un autre que votre père que vous avez vu? S'il en est ainsi, ma chérie, dites-le. Vous aimez votre père, et votre père, si vous vous taisez, serait à jamais malheureux. Il souffrirait et pleurerait d'être séparé de vous. Et vous aussi, chère petite, vous seriez bien triste et vous pleureriez, car elle serait longue une vie sans votre père.
Je ne sais rien, monsieur, je ne sais rien, et je voudrais bien qu'on me laisse tranquille. Monsieur, je suis malade. Mère ne voulait pas m'emmener ce matin, et c'est moi qui ai voulu venir. « Mais j'ai bien mal, monsieur. Je comprends pas ce qu'on exige de moi. Et pourquoi petite mère pleure tous les jours depuis que l'on m'interroge? Elle grelottait, ses dents claquaient. Le rouge de ses pommettes s'accentuait encore, et ses yeux se creusaient, et comme ceux de sa mère, se meurtrissaient d'un large trait de bistre. Oui, bon, il est convenu que vous ne direz rien. Le greffier alla rechercher Madame Laroque. En entrant, le premier regard de la jeune femme, regard épouvanté, fut pour Suzanne. L'enfant avait-elle parlé? Suzanne, à son tour, regarda sa mère. Elles se comprirent, Suzanne n'avait rien dit. Henriette ouvrit ses bras et la petite fille s'y jeta en pleurant. Monsieur de Lignoral se pencha à l'oreille du greffier et lui parla bas. Le greffier ouvrit la porte de la salle où Roger attendait. « Laroque, entrez !» dit-il. Roger obéit. La salle d'attente était mal éclairée et obscure, de telle sorte qu'il se trouva passer de la nuit comme en plein jour. Il s'arrêta sur le seuil et releva ses yeux, obstinément baissés jusque-là. Et devant lui apparurent sa femme et sa fille. « Suzanne, Henriette, ma fille, ma femme !» Mais Henriette et Suzanne, tout d'abord surprises parce qu'elles ne s'attendaient pas à le voir, reculent avec une horreur si visible que le juge d'instruction en tressaille. L'instinct a été plus fort que la volonté chez ces deux êtres, si faibles, affaiblis encore par les tortures des jours derniers. En voyant la roque, ce n'est ni le père ni le mari, aimé jadis, qu'elle revoit. C'est l'assassin. Roger a compris cette terreur. Il se trouble, il bégaye. Mais quoi? Vous me fuyez? Je vous tends les bras. Vous m'évitez? Mais qu'ai-je donc de changé? Est-ce par qu'une accusation aussi odieuse que ridicule pèse sur moi que je ne suis plus toi, Suzanne, ton père, et toi, ma chère Henriette, ton mari? Mais déjà la mère et la fille se sont remises. La mère a compris qu'elle a failli se trahir, qu'elle a failli perdre Roger d'un geste, d'un seul regard. Monsieur de Lignerolles l'examine toujours et elle devient plus blanche encore. Cette entrevue, si brusquement menée, sans préparation, n'était qu'un piège et elle s'y est laissée prendre. Elle a recouvré le sang-froid, elle serre la main de sa fille afin de lui faire deviner ce qu'elle veut et elle la pousse dans les bras de son père. L'enfant y tombe en fermant les yeux parce que c'est la rouette toujours qu'elle aperçoit croulant sous l'étreinte de la roque et non plus son père, et parce qu'elle espère ainsi échapper à cette vision. Déjà la roque, sans soupçon, sans défiance, a tout oublié. Il embrasse Suzanne de toutes ses forces. « Suzanne, ma fille, mon enfant bien-aimé !» Puis, sans le même baiser, il confond la mère et la fille. « Henriette, ma bonne et chère femme, que je suis heureux !» Et tout à coup, se tournant vers Monsieur de Lignerolles, silencieux, « Que vous êtes bon, monsieur, de m'avoir permis de revoir ma femme et ma femme. C'est tout ce qui m'aime au monde. Quelle que soit la conclusion de votre enquête, je vous remercie, monsieur, d'avoir été généreux et de vous être souvenu que j'étais père. Oh, »« Vous n'avez pas à me remercier, » dit le juge froidement. « Pardonnez-moi, monsieur, » fit Roger, qui voulait insister. Monsieur de Lignerolles lui imposa silence d'un geste. Je vous ai dit tout à l'heure que vous aviez été vu au moment où vous entriez chez la rouette, et qu'au moment où vous avez assassiné ce malheureux, vous avez été vu encore, oui, par une femme et par une petite fille, et je vous supplie de ne pas retarder davantage ma confrontation avec elle. Monsieur de Lignerolles se taisait. Madame Laroque, assise auprès du bureau du greffier, serrait sur ses genoux, dans ses bras, par un mouvement irréfléchi, sa fille défaillante. « Elle collait ses lèvres dans les cheveux dénoués de l'enfant, dont la tête reposait sur son sein et qui toujours gardait les yeux obstinément clos. Certes, elle aurait bien voulu être morte et emportée dans la mort, l'oubli, l'éternel néant, son enfant avec elle. Et voilà que dans l'esprit de Roger, la lumière se fait brusquement. Il n'a eu qu'à regarder M. de Lignerolles, ému malgré lui. Il n'a eu qu'à regarder Mme Larocque et Suzanne pour comprendre. Il tremble, il chancelle. « Dieu, Dieu, épargnez-moi, épargnez-moi » balbutie-t-il. Il voit que M. de Lignerolles entr'ouvre les dents et qu'il va parler. Alors, soudain, à la fois menaçant et suppliant, « Monsieur, prenez garde, taisez-vous, je vous en supplie, vous allez proférer un blasphème. Vous avez été vu au moment de votre crime par une mère et sa fille, » dit lentement le magistrat. « Vous avez ces deux témoins devant vous, c'est votre femme et votre enfant. » Roger part d'un grand éclat de rire strident, un rire de fou. « Elles m'ont vu, moi, ma femme et ma fille m'ont vu assassiner la rouette !» Et se précipitant vers elles, il leur prend les mains, il leur secoue les bras, il leur fait mal, le pauvre homme. « Vous m'avez vu tous deux, à ce qu'il paraît? Vous entendez qu'on prétend que vous m'avez vu? Mais protestez donc, levez-vous donc !» Mais criez donc à cet homme qui m'accuse qu'il a menti et que ce n'est pas vrai que vous n'avez pu voir Roger Larocque assassinant, puisque Roger Larocque est innocent et incapable de commettre un crime. Elles ne répondent pas. Il a beau leur serrer le bras à les faire crier, elles restent insensibles. Alors il les appelle. « Suzanne, Henriette, qu'avez-vous? Êtes-vous malade? Pourquoi ne parlez-vous pas ? » Henriette se lève. Elle a cette pâleur de cire qu'ont les morts. Monsieur de Lignerolles a tort de vous dire, Roger, que nous avons été témoins d'un meurtre. Depuis 3 jours, on nous poursuit, Suzanne et moi, pour nous contraindre à des aveux que nous ne pouvons faire. Je n'ai qu'à redire devant vous, en mon nom comme au nom de ma fille, ce que nous avons dit bien des fois déjà. Nous ne savons pas comment ce meurtre a été commis et nous ne comprenons pas comment l'on ose vous accuser. Ah, la bonne heure, je respire, vous avez parlé. Savez-vous bien qu'à un moment, j'ai cru, enfin oui, j'ai cru, mais non, encore ai-je pu croire. Il est impossible que vous ayez vu puisque ce n'est pas moi, quelle folie! « Ah, mais j'ai eu peur, oui, je l'avoue, j'ai eu peur. » Et tout à coup, monsieur de Lignerolles, avec brutalité, « Pourquoi disiez-vous qu'elles avaient été témoins? Vous outrepassez votre droit de juge. Vous avez tout à l'heure affirmé un mensonge et ma femme vous a donné un démenti que vous n'avez pas relevé. » Le magistrat répliqua doucement parce qu'il avait pitié d'Henriette et pitié de la petite fille. Il est prouvé qu'elles ont vu. Cela est prouvé, faisait Larocque étonné, calmé par un effort sur lui-même. Vous entendez, Henriette? Moi, je ne peux rien dire, c'est à vous de répondre. Cela ne se peut, disait gravement la jeune femme, puisque je ne comprends rien à ce que l'on me demande. Ce fut au tour de Larocque d'interroger le juge. Quelle est cette énigme? Monsieur de Lignerolles sonna. Au gendarme qui apparut, il ordonna d'introduire dans son cabinet la femme de chambre. « Victoire ? » murmura Roger. « Pourquoi donc ?» Et il attendit anxieusement les explications du juge. Monsieur de Lignerolles fit répéter à Victoire sa déposition. Elle le fit sans se presser, mot pour mot, n'omettant rien. Au fur et à mesure qu'elle parlait, on pouvait voir le visage de Larocque se décomposer. Par une tension énorme de sa volonté, il essayait de comprendre. Il secoua la tête et dit très haut, les yeux hagards, « Prenez garde à moi, j'ai peur de devenir fou !» Un long silence se fit. Peu à peu, il comprenait. Henriette et Suzanne avaient vu, mais quoi? Elles avaient refusé de parler. Pourquoi? Il fallait le savoir. La Roque alla s'agenouiller devant sa femme avec une grâce touchante. Il lui prit les mains, les caressa, puis, comme s'il avait parlé à un enfant, « Dis la vérité, fit-il. Est-ce vrai que tu m'as vu? Tu as nié, n'est-ce pas? Jusqu'à la dernière minute, tu as prétendu que tu n'avais pas été témoin du meurtre. Et Suzanne a dit comme toi. C'est vainement qu'on vous a interrogé. Mais à présent, ma chère femme, et toi, ma chère Suzanne, il faut tout dire. Ne craignez point, puisque je suis innocent, de raconter tout ce que vous avez vu. On m'accuse, mais qui sait si votre témoignage ne va pas prouver mon innocence ?» Il avait réuni les petites mains de Suzanne dans les mains d'Henriette et les baisait tous les quatre ensemble. La mère et la fille, toujours aussi pâles, toujours les yeux fermés, se taisaient. Monsieur de Lignerolles intervint, et ce fut à Madame Laroque particulièrement qu'il s'adressa. « Je vous ai mis en présence de votre mari, dit-il, parce que j'espère encore que, cédant à ses prières, vous finirez par être persuadé que votre silence est dangereux, et qu'il vaut mieux parler et nous raconter la vérité, quelle qu'elle soit, que vous taire plus longtemps. Laroque vous dira plus chaleureusement que je ne pourrais faire qu'il est de son intérêt que vous parliez. Pour nous comme pour tout le monde, il est évident que vous et votre fille, vous avez assisté en témoin à ce meurtre. Les charges les plus graves pèsent sur votre mari. Si vous refusez de répondre à nos questions, c'est donc que Laroque est coupable, pour vous comme pour nous. » Et, se tournant vers le malheureux, « Expliquez bien ceci à votre femme et à votre fille, Laroque. Monsieur Lacroix et moi, nous avons essayé. Elles ont fait la sourde oreille. Soyez plus heureux que nous. » Roger avait écouté avec attention. Il lui fallait un effort constant d'intelligence à présent, car son cerveau était vide. Il hocha la tête et murmura, « Mais il faut qu'elle parle ou je suis perdu. » Il était resté aux genoux de sa femme. Il n'avait abandonné ni ses mains ni les mains de sa fille. Deux fois, Henriette, par un mouvement imperceptible, avait voulu les retirer. Il les avait retenus. Et à chaque fois, Laroque, en la regardant, avait souri d'un air craintif. « Henriette, tu viens d'entendre, monsieur de Lignerolles, mais peut-être n'as-tu pas bien saisi sa pensée. Je vais te la traduire. Votre femme et votre fille ne veulent point sortir de leur silence, a-t-il dit. Or, il est prouvé qu'elles ont été témoins du meurtre. Si vous n'étiez pas l'assassin, elles parleraient. Et ne rien dire, c'est donc vous accuser. Mais puisque vous protestez de votre innocence, ordonnez-leur de parler, qu'elles révèlent ce qu'elles ont vu. Si vous êtes innocent, vous n'avez rien à redouter, et au contraire, vous avez tout à espérer de leur déclaration. Ce n'est bien votre pensée, monsieur Lignerolles. Oui, vous l'avez rendue exactement. C'est vrai, Henriette. Ce que dit le juge, sais-tu bien? On croirait que tu ne t'en rends pas compte. Ton silence paraîtrait étrange, et tout naturellement, les juges penseraient que Victoire ne s'est pas trompée, et que du balcon de votre villa, tu as vu assassiner Larouette, et que par pitié pour ton mari, tu ne veux pas parler. Oh, moi, je suis bien sûr que tu n'as pas pu me voir de la villa, et je n'ai rien à redouter de tes aveux, rien. Entends-tu, ma chérie, rien? Puisque je suis innocent, ce n'est pas moi que tu as vu, si tu as vu quelqu'un. J'ai donc tout intérêt à ce que tu renseignes, monsieur de Lignerolles. Je t'en prie, mon enfant, dis-nous ce que tu sais. » Elle ne répondit rien, gardant son attitude singulière, qui faisait penser à ces magnétisés, immobiles sur leur chaise, le buste droit, les mains comme mortes, les paupières baissées. « Tu as entendu, Henriette ? Elle fit un signe affirmatif. Alors pourquoi ce silence? Mais ce silence qui me condamne, Henriette. Je n'ai rien à dire. Mais tu mens. La déposition de Victoire est précise. Et ton trouble, ta pâleur, ton air étrange te trahissent. Et je me rappelle maintenant que le lendemain de ce jour, le matin, Suzanne a été malade et tombée dans des convulsions. Tout cela est une preuve. Mais je n'ai rien vu. Oh, puisque je t'en supplie, Henriette. Mais n'ayant rien vu, je ne peux rien dire. Alors tu m'accuses. Je suis ton mari, je t'aime, je suis innocent, et tu me condamnes. Henriette, oublie où nous sommes. Et laisse-moi te parler comme si nous étions seuls en ta chambre, ta villa, la chambre blanche, si gaie, si ensoleillée, où tu te plaisais tant, où tu n'avais pas besoin d'oiseaux dans les cages, car tous ceux du bois semblaient te connaître et se donnaient rendez-vous autour de toi. Regarde-moi, Henriette, ai-je quelque chose de changé? Moi, je te retrouve tout autre. Mais que s'est-il passé pendant que je n'étais pas là? Tu veux pas me le dire? Nous sommes jeunes tous les deux, Henriette, et pourtant voilà 8 ans que nous sommes mariés. Et depuis 8 ans, as-tu remarqué dans mes paroles et dans ma conduite rien qui pût t'expliquer et te faire prévoir le crime que l'on me reproche? Oh non, j'ai non, jamais, dit-elle avec élan. Mais je t'ai aimé, jadis, bien longtemps avant de te le laisser voir, avant de te l'oser dire. Et c'est ton père qui, avant toi, peut-être, s'en est aperçu. Alors comme j'étais pauvre et que tu étais presque riche, j'aurais continué de souffrir, j'aurais gardé mon amour pour moi parce que je redoutais que le moindre soupçon vînt l'effleurer et le ternir. J'ai été pauvre, mais j'étais fier. Tu m'aimais, toi aussi, et ton père l'avait deviné également, il a forcé nos deux cœurs à parler. Est-ce là ce qu'eût fait un futur criminel? Non, Roger, votre délicatesse a été grande. Mais avez-vous oublié, Henriette, combien nous fûmes heureux avant notre mariage et depuis? Je me savais brusque et je m'étudiais à rester doux. Est-ce que jamais vous avez eu à souffrir de la moindre brutalité? N'ai-je pas sans cesse prévenu vos désirs, deviné vos fantaisies? Si je vous ai rendu malheureuse sans le savoir, Henriette, dites-le, et je suis prêt à reconnaître mes torts. Mais j'étais heureuse, Roger. Oui, vous l'étiez, vous le dites, et je le crois. Je le crois parce que je ne passais guère de jours sans chercher ce qui pourrait vous rendre heureuse, parce que je me serais reconnue indigne de vous si par mon fait j'avais surpris un nuage sur votre front. Certes, je ne pouvais être à vos pieds constamment à vous dire que je vous aimais. J'avais l'aisance à gagner, de la fortune à acquérir. Mais mon travail, c'était encore une preuve d'amour, car bien que vous ne fussiez ni coquette ni dépensière, j'étais fier de pouvoir vous dire que nos affaires étaient en pleine prospérité, parce que je savais que si vous n'en conceviez point trop grande joie pour vous-même, vous en étiez heureuse pour notre fille. Mais tout cela est vrai, Roger, je le reconnais. Je n'ai jamais douté de vous, je n'ai jamais eu de reproche à vous faire. Et c'est moi, Henriette, moi qu'on accuse d'assassinat et que vous ne voulez pas défendre. Je sais bien que la fatalité, je n'y avais jamais cru, a réuni contre moi des preuves presque évidentes. Il y a des indices en tout cela, sur lesquels il m'est impossible de m'expliquer. Mais vous, Henriette, qui me connaissez, qui m'avez aimé, qui avez vécu de ma vie irréprochable, vous êtes là pour ne pas croire à l'évidence, pour expliquer les choses inexplicables, ou bien, si vous ne le faites pas, vous êtes vous-même coupable, car votre silence va peser d'un poids énorme dans la décision des juges, votre silence qui est l'aveu de ma culpabilité. J'irai plus loin, Henriette. Vous m'auriez vu, comme on le dit, étranglant la rouette de ces deux mains qui ont tant de fois caressé les vôtres, qui les serrent encore en ce moment. Vous m'auriez vu, sans qu'il vous fût possible de douter, que votre devoir serait de douter encore, de vous révolter contre vos yeux, contre votre souvenir, contre votre conviction. Ou bien alors, si vous m'aimez si faiblement que votre amour ne peut résister un pareil assaut, c'est encore votre devoir de femme de tout dire, comme ce serait votre devoir s'il s'agissait d'un étranger du premier venu. Elle écoutait. Il parlait si tendrement qu'elle aurait pu s'y laisser prendre si elle n'avait pas vu le malheureux dans cette fatale nuit. Les souvenirs d'amour, même qu'il se plaisait à rappeler, ne faisaient qu'augmenter son mépris parce que ces souvenirs ainsi évoqués en cette heure tragique, c'était comme autant de preuves de son hypocrisie. « Henriette, tu te tais, mais tu n'as pitié ni de mes larmes ni de mes prières. » Ses lèvres restaient obstinément fermées, son regard disait « mensonge, mensonge ». Il se redressa, ferma les poings, puis, soudain se calmant, « Henriette, tu me perds. Tu ne m'aimes plus, tu ne m'as jamais aimé, sans doute. Eh bien, je veux que tu le saches. Moi, je t'aime toujours, je t'aime malgré tout. Je t'aimerai même si je suis flétri par une condamnation. Même sur l'échafaud, je crierai mon amour. Ce sera ta punition, ce sera ma vengeance. » Il se promena quelques instants dans le cabinet de M. Lignerolles en proie à la plus vive douleur. « J'ai fait ce que j'ai pu, monsieur, » dit-il au juge. Du doigt, celui-ci lui montrait Suzanne sur les genoux de sa mère. Ce geste disait « Il y a deux témoins, votre femme et votre fille. » Roger comprit. Un dernier espoir lui restait. Son enfant parlerait peut-être. Il l'enleva à sa mère et l'embrassa avec passion à plusieurs reprises. Puis, tout à coup, s'approchant de M. de Lignerolles, « Je vous supplie de faire éloigner ma femme, » murmura-t-il. Le magistrat acquiesça d'un signe de tête. Henriette s'était levée sans attendre l'injonction et s'était dirigée vers la salle d'attente où elle disparut. Roger prit Suzanne sous les bras comme lorsqu'il voulait l'enlever au-dessus de sa tête et la tint éloignée de lui un moment en souriant. « Tu ne m'aimes donc plus, chérie, » dit-il. L'enfant le regardait avec une sorte de sauvagerie. Elle était si changée que quiconque l'eût vue avant le crime et l'eût vue alors eût juré qu'il y avait là deux enfants. De sa gentillesse d'autrefois et de ses jolis sourires et de l'expression si tendre et si rieuse de ses yeux, il ne restait rien. Les lèvres tombaient lourdement comme s'affaissent les lèvres d'une femme que la douleur a flétrie. Elle était jadis pâle et rose, d'une pâleur transparente, sous laquelle on devinait le sang vivace et chaud. Maintenant, son teint était jaune et le front, ce front candide de fillette, restait constamment ridé. Mais pourquoi veux-tu me faire de la peine ? Disait Laroque en l'embrassant presque entre chaque mot. Est-ce que je ne t'ai jamais fait pleurer, moi ? Est-ce que je ne t'ai pas aimé, cajolé autant que petite mère ? Embrassée aussi souvent qu'elle t'embrassait ? Est-ce que tous les jours, quand je venais de Paris, tu ne trouvais pas sur moi quelque surprise ? Et tu le savais bien, vilaine, car tu venais toujours au-devant de moi, ou du plus coin que tu pouvais me voir, tu guettais mon arrivée. Ah, ce n'était donc pas pour moi que tu m'aimais, et parce que je suis ton père. C'était pour les jouets et les poupées dont je te faisais présent. C'est très laid, cela, mademoiselle, et vous mériteriez d'être grondée. Suzanne semblait ne pas entendre. « Suzanne, Suzanne, ma chère mignonne, réponds-moi. Tu te rappelles bien, n'est-ce pas? Le jour où tu m'as récité ce gentil compliment que ta mère t'avait appris et où tu me disais « Père chéri, je ne suis jamais si heureuse que lorsque tu m'embrasses. Je sens que tu es indulgent pour moi et tous les jours je t'aime davantage parce que tous les jours je vois combien tu es bon. Rappelle-toi, chère petite. » C'était la veille de ce jour-là, la veille au soir. Je ne suis pas venu dîner avec ta mère et avec toi. Il paraît que vous m'avez attendu très tard. Alors vous vous êtes mis au balcon et vous regardiez dans la rue pour me voir venir. Tu sais, tu te souviens? Oui, père, je me souviens, murmura l'enfant. Oh, j'ai eu un geste de joie. Il soupira soulagé. Suzanne se souvenait. Alors vous m'avez vu entrer dans la petite maison qui fait face à la nôtre. Tu la vois bien, la petite maison avec ses grands marronniers? Oui, la maison du voisin Larouette. C'est cela. Alors tu m'as vu entrer, à ce qu'il paraît. Puis tu m'as vu dans la chambre dont la fenêtre était ouverte. Tu m'as vu me jeter sur Larouette et lui mettre les mains autour du cou, l'abattre sous moi et le tuer. L'enfant se tut. « Réponds, ma chérie, c'est ton petit père qui t'en supplie. »« Mais j'ai rien vu de cela, » dit-elle à voix basse. « Alors, qu'as-tu vu? Cela est certain. Tu as vu quelque chose. »« Non, mère et moi, nous n'avons rien vu. »« Mais tu mens, on te l'a déjà dit. Et je te le répète, tu mens, et c'est mal. » Et je t'ordonne de parler, ou si tu ne parles pas, je te punirai. Et d'abord, tu ne me verras plus, plus jamais, entends-tu bien? Et bientôt, tu me regretteras, car tu n'auras plus tes bibelots, ni tes chariots, ni tes pelles, ni tes bêches, pour creuser dans le sable, ni tes fleurs, ni tes poupées, grandes comme toi. On te retirera tout cela, parce que tu seras devenu pauvre, et que ton père ne sera plus là pour te les acheter. Alors tu n'auras plus non plus tes jolis chapeaux, tu n'auras plus tes jolies robes fraîches qui faisaient tant plaisir à ta coquetterie. Tu n'auras plus rien, parce que tu n'auras pas voulu obéir à ton père. Allez, parle, je te dis de parler, je te l'ordonne. Parleras-tu? Oh, père, père, dit-elle, j'ai peur. Mais parleras-tu, te dis-je, parleras-tu à la fin? Tu étais sur le balcon. Qu'as-tu vu? Et qu'as-tu entendu? Si tu ne m'obéis pas, je t'emmène avec moi et tu resteras en prison avec ton père, dans une prison très noire, où toutes sortes de mauvaises bêtes viendront te mordre, où tu verras des fantômes la nuit, où l'on viendra te réveiller quand tu dormiras pour te faire souffrir. Allez, parle, allons, parle! Père, père, pitié de moi, pitié. Mais pourquoi aurais-je pitié de toi, puisque tu t'entêtes à ne rien dire? Je ne t'aime plus. Je ne te reconnais plus pour mon enfant. Non, tu n'es pas ma fille. Qui est-elle, celle-là? Oh, tu es une petite étrangère, que nous avons élevée par charité, et que nous allons envoyer dans la rue, parce qu'elle est désobéissante, et parce que pour l'affection qu'on lui a vouée, elle ne montre que de l'ingratitude. Oh, vous ne méritez pas qu'on vous aime. » Et la colère l'envahissait, et il la secouait dans ses mains avec rudesse. Elle laissait faire, masse inerte, les bras ballants, la tête sur la poitrine. Soudain, il la pose près de lui. L'enfant perd l'équilibre et tombe sur les genoux. La roque lève les bras dans un accès de fureur. La raison lui échappe, comme elle échappe à Suzanne, comme elle échappe à Henriette, car leurs nerfs sont tendus, et cette scène déchirante, si elle devait se prolonger, casserait chez ces trois êtres tous les ressorts du cerveau. Il n'a jamais eu que des caresses pour cet enfant qu'il adore, et cette résistance le met dans une rage insensée. Il a envie de la battre, de la briser. On dirait qu'elle attend le coup, car, victime résignée, elle baisse la tête. Et même Roger ne l'entend plus, qui dit encore doucement « Pardon, père, pardon, père. » Alors Henriette vient se jeter à genoux entre elle et lui. Elle prend Suzanne dans ses bras, effarouchée, mais en tombant là, elle a glissé deux mots à la roque de sa voix mourante, deux mots que seul il entend. « Frappe-nous donc, comme tu as frappé l'autre !» Sa colère s'évanouit soudain. Les bras levés pour frapper, les poings fermés, s'abaisse lentement sur ses deux têtes, où depuis des années il a accumulé tant de baisers d'amour. Ses doigts rudes errent un instant dans ses cheveux blonds, ceux de la mère comme ceux de la fille, et se font doux pour cette suprême caresse, et il dit « Non, je ne frapperai pas, car je vous aime. Je vous aime, mon Dieu, je vous aime. » Et c'est plus qu'il n'en peut supporter, cet homme. Il fait signe à M. de Lignerolles. Le greffier prend Henriette par le bras et la fait sortir en la soutenant pendant que Suzanne reste suspendue à sa robe. Roger les suit un moment des yeux, et quand elles ne sont plus là, il semble que la terre lui manque, que rien ne se trouve plus sous ses pieds, et il tombe lourdement avec un grand soupir, évanoui, demi-mort.